Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Margot Loridon, Corentin Mansois, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Florent Burgeon. Troisième volet de notre semaine consacrée à la corruption, la grande tentation. Lundi, nous évoquions la corruption d'État systémique qui gangrène nombre d'États dans le monde et notamment sur le continent africain. Hier, il s'agissait d'observer une corruption si politique qu'elle confine à la guerre d'influence. Aujourd'hui, place à la résistance citoyenne de la rue aux urnes quand la société dit stop, direction la Roumanie.
Ils vivent dans leur tour d'ivoire, baignant dans la corruption et le mensonge. Ils pensent qu'on est une nation facile à manipuler. Nous ne le sommes pas. Nous sommes juste trop gentils.
Nous voulons un pays libre, nous voulons la liberté et la justice dans notre pays. Il en va de l'avenir de nos enfants.
La Roumanie a beaucoup évolué ces dernières années. On est membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Et malgré tout, on continue d'avoir des problèmes de corruption. Et ce parti s'attaque aux lois anticorruption. Ce qui a changé, c'est que les gens ont beaucoup voyagé dans les autres pays européens depuis 2007. Ils ont vu comment c'était ailleurs et à quel standard ils pouvaient prétendre, eux aussi.
Des années que cela dure, des manifestations monstres, des procureurs qui affrontent le pouvoir politique, des journalistes qui subissent des menaces, des activistes qui dénoncent. La corruption est un mal que le peuple roumain a décidé de ne plus supporter. Porté par l'adhésion à l'Union européenne, le mouvement de la société civile refuse les mesures d'intimidation des pouvoirs en place et c'est désormais le président lui-même qui, contre le gouvernement, a fait le choix de transformer l'élan civique en force politique. En effet, le 26 mai dernier, il a profité du scrutin européen pour organiser un référendum sur les réformes judiciaires du Premier ministre visant à assouplir la lutte contre la corruption et à protéger le personnel politique des poursuites. Alors quels furent le résultat et les effets de cette consultation populaire et que nous dit la Roumanie de ce moment précis où la corruption devient intolérable pour les citoyens ? À partir de quand et pourquoi les gens décident de dire stop? Qui sont les leaders, les membres actifs de cette lutte anticorruption? Et comment recoupe-t-elle aussi les clivages politiques? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Trajan Sandu. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes historien, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle.
Professeur agrégé.
À l'Université Sorbonne Nouvelle. Auteur de plusieurs ouvrages, une histoire de la Roumanie, mais aussi un fascisme roumain qui était paru chez Perrin, l'un et l'autre. On retrouvera tout à l'heure en duplex de Bucarest, Sylvia Marton, le temps d'établir la liaison. On va commencer ensemble, Trajan Sandu. Parallèlement au scrutin européen, je le disais dans mon introduction, se tenait un référendum, une consultation autour de la question de la corruption. C'était une consultation populaire organisée, voulue par le président Klaus Johannis. Il y avait deux questions qui étaient posées. La première, c'est approuvez-vous une interdiction de toute amnistie et grâce pour des faits de corruption? Et la deuxième, c'était approuvez-vous une interdiction des décrets d'urgence en matière de sanctions pénales? La participation a été assez bonne, plus de 40%, et plus de 85% des suffrages exprimés sont allés dans le sens d'un refus de l'amnistie et de l'usage des ordonnances en matière judiciaire. Quelle interprétation faut faire de cette consultation populaire? Qu'est-ce que vous en faites, vous?
Écoutez,
qu'ont dit les Roumains?
Les Roumains ont dit ce qu'ils ont dit par leur vote.
Et probablement d'autres choses.
La participation, comme vous le dites, était bonne. Elle était meilleure dans tous les pays, y compris la France, pour ce genre de scrutin, parce qu'il y avait des dimensions nationales comme d'habitude, mais aussi parce que l'on prend de plus en plus au sérieux la dimension européenne et l'impact du travail législatif et réglementaire européen à l'échelle des nations. Voilà. Donc, il y a des mouvements en France qui s'en réclament également, qui se réclament également de ce genre de réflexion. Et donc, le suffrage, les élections européennes étaient peut-être une bonne occasion de l'exprimer. Il est vrai aussi que ce référendum et relève un tout petit peu d'une habitude prise en Roumanie, consistant à, évidemment, faire passer un message national ou instrumenter quand même ce genre d'élection.
Et notamment un message à la coalition en place, qui avait appelé au boycott sur ce référendum.
Bien évidemment.
De ce point de vue-là, c'est un échec, puisque la participation est plutôt bonne sur ce référendum.
La participation est excellente. On voit aussi que se sont mobilisés essentiellement les opposants à ce gouvernement. Et bien évidemment, ceux qui les soutiennent, de moins en moins nombreux, on a vu qu'ils ont fait 26%, non, 23-24% des suffrages, le PSD, on a vu qu'ils sont en recul électoral, et bien évidemment, ils ne se sont pas non plus mobilisés pour ce référendum.
On va revenir évidemment sur ces résultats purement politiques et sur les pourcentages des uns et des autres. Effectivement, le lendemain des élections européennes perdues par le Parti social-démocrate, la peine de Liviu Dragnea, parce que la question c'est aussi les effets de tout
bien
ça.
Sûr.
Alors Liviu Dragnea, j'explique pour nos auditeurs, c'est le véritable homme fort du pays, qui n'est pas Premier ministre mais qui est président de la Chambre des députés. Ouais. Sa condamnation en appel par la Haute Cour a été validée et il a été dès le lendemain de ce scrutin incarcéré. Est-ce qu'on peut penser que le référendum a provoqué l'incarcération de l'homme fort, de Dragnea? Est-ce qu'elle l'a accéléré? On va le dire autrement, si le PSD, le Parti Social-Démocrate, avait fait un très bon résultat, est-ce qu'il serait aujourd'hui derrière les barreaux? Voilà, on va la poser comme ça, la question.
Si vous la posez, c'est que vous avez une piètre opinion, excusez-moi de vous le dire, du système judiciaire roumain. Voilà, je ne le dirai pas ainsi, je dirais qu'il y a une coïncidence. Bon, un peu troublante, mais enfin, il ne faut pas voir le mal partout. Hein. La justice a ses propres rythmes et le droit a ses propres logiques, qui ignore parfois, souvent, on peut l'espérer, la logique politique et la logique électorale. Mais il se trouve que dès le lendemain des résultats donc du dimanche, 26 mai, Monsieur Dragnea, enfin la cour a demandé à faire appliquer la peine de 3 ans et demi de prison, peine de prison donc pour Monsieur Dragnea, et il a été incarcéré le jour même. Voilà, donc il y avait une sorte de synchronie, mais je ne pense pas qu'il faille chercher des synergies et des
donc ce que vous nous dites en creux, c'est que malgré les attaques qu'il y a pu avoir, et on va développer un tout petit peu, finalement aujourd'hui la justice roumaine reste indépendante.
Je crois que
c'est ça que vous me dites.
Elle devrait rester. Il y a la justice roumaine, en fait, ce sont plusieurs pôles. Alors il est vrai que le gouvernement, parti majorité social-démocrate depuis 2016, a mené plusieurs attaques extrêmement virulentes vis-à-vis de l'indépendance de la justice.
Vous pensez à quoi en particulier?
Je pense à toutes les ordonnances d'urgence, hein, car c'est leur nom, ordonnances d'urgence gouvernementales, OUG, destinées à laver, à sortir, n'est-ce pas, des cadres de la justice ordinaire, un certain nombre de responsables politiques, à commencer par Monsieur Dragnea lui-même, puisque tous les efforts du ministre de la Justice, Toader notamment, ont été dirigés vers une réforme de la justice consistant à laver Monsieur Dragnea et à lui faire éviter la prison. Et en face, vous avez d'autres pôles, comme la Direction nationale anticorruption, la DNA, qui a été tenue jusque au début de 2019 par Madame Kövesi, Kodrotsa Kövesi, Laura Kodrotsa Kövesi, qui a fini par être démise après les efforts du ministre de la Justice et du Parti social-démocrate. Hein. Donc finalement, ils ont eu sa peau d'une certaine façon.
Même si elle a peut-être pas dit son dernier mot, on y reviendra parce qu'elle pourrait revenir à la charge par la porte
des institutions européennes.
On y reviendra
absolument
tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est une figure centrale dans la lutte contre la corruption en Roumanie. On va accueillir en duplex de Bucarest Sylvia Marton qui devrait être avec nous. Bonjour Sylvia Marton.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en duplex de Bucarest. Vous êtes maître de conférence à la faculté de sciences politiques de l'université de Bucarest. Alors on a un petit peu commencé avec Traian Sandu l'analyse du scrutin européen mais aussi le résultat de ce référendum autour de la question de la corruption. Alors je ne vais pas vous redemander de faire cette analyse sur ce résultat du référendum, mais peut-être projetons-nous un tout petit peu et regardons ce qu'il pourrait y avoir maintenant, parce que le Parti social-démocrate, on l'a dit, est en net recul. Hein, il a remporté 24% des suffrages aux européennes. C'est beaucoup moins que lors des élections de 2016, où il avait fait 46%. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, puisqu'on a le véritable homme fort du pays à la tête de ce Parti social-démocrate, Liviu Dragnea, qui est maintenant derrière les barreaux? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que la gauche, la coalition gouvernementale peut rester au pouvoir? Est-ce que on pourrait avoir des élections anticipées? Est-ce qu'on pourrait avoir un retour de la droite? Comment vous voyez les choses, vous, Sylvia Marton?
Le vote du 26 mai dernier, votre invité aussi a eu raison de le souligner, a été très important. Mais les conséquences politiques du vote du 26 mai sont encore incertaines. Mmh. Et ces conséquences politiques sont en rapport d'abord avec le Parti social-démocrate lui-même, qui tout d'un coup se retrouve sans chef. Donc il y a d'abord les mouvements, les réajustements des camps et les rapports de pouvoir au sein de ce Parti social-démocrate roumain. Il faut savoir donc que c'est le parti le plus discipliné, le plus hiérarchisé finalement de toute la sphère politique roumaine, et que la succession de Dragnea va être assez difficile. Il avait laissé quelques 2 ou 3 héritiers en tant que vice-président encore du parti qui lui restent encore fidèles. Au niveau des déclarations, la première ministre qui est devenue la présidente intérim du parti déclare que l'époque Dragnea, elle est fermée, donc au niveau déclaratif, c'est que le parti va faire une sorte de auto-analyse et le parti va changer un peu dans sa manière de regarder les choses et de faire les choses. Et puis, il y a également au sein du parti donc des remue-ménages, des anciens leaders qui essaient d'approcher, de faire pousser leur agenda. À mon avis, le parti va tenir bon. C'est un parti solide, discipliné. Il va tenir. Il n'y aura pas de fractions, divorces.
En tout cas, jusqu'aux législatives.
Au sein du parti. En tout cas, aux législatives de l'automne 2020. Donc, l'échéance est assez lointaine. Ensuite, il y a l'échéance électorale, toujours une échéance électorale, les élections locales du printemps 2020. Et puis, il y a l'échéance électorale pour les élections présidentielles de l'automne 2019. Mmh. C'est celle-là qui est la plus proche. Et le Parti social-démocrate, par exemple, il traverse une crise, il faut le reconnaître, n'a pas encore annoncé son candidat, alors qu'on est déjà au mois de juin, pour les élections présidentielles qui sont finalement, de point de vue électoral, de point de vue politique, le sommet, le pic de la vie politique et de la vie politique roumaine.
En même temps, Sylvia Marton, 2020, c'est demain, c'est très bien. Bientôt. Essayons de se projeter quand même. Alors, je rappelle les résultats. On a dit 24% pour le Parti social-démocrate. On a ensuite le Parti national-libéral, qui est la droite conservatrice, qui, elle, a obtenu un très bon score. Elle est devant, elle est à 27%. Et puis, on a en troisième position une alliance de partis, l'USR+, c'est-à-dire d'un côté l'Union Sauvée la Roumanie. On verra ce qu'il y a derrière, parce que là, l'objet corruption qui nous intéresse cette semaine est très prégnant. Et puis, le Parti de la liberté, de l'unité, de la solidarité, à la tête duquel se trouve l'ancien Premier ministre, Dacian Cioloș. Je ne sais pas si je prononce correctement, qui a obtenu 21% des suffrages. Projetons-nous à 2020. Est-ce qu'un retour de la droite est possible? Est-ce qu'une alliance, pourquoi pas, entre cette droite conservatrice et cette plateforme citoyenne dont on va regarder ce qu'il y a derrière, est-ce que cette alliance-là serait possible? Et donc peut-être un retour de l'ancien Premier ministre?
De point de vue électoral, de point de vue des calculs électoraux, ce sera souhaitable, bien sûr, pour que l'opposition puisse se porter ensemble et concentrer le vote utile, le vote anti-PSD, le vote anti-Parti social-démocrate. En général, depuis 25 ans, les 30 dernières années de la démocratie roumaine, ce type de vote utile ou vote négatif contre le pouvoir en place a fonctionné de point de vue électoral. Mmh. Et c'est surtout le PSD qui est le parti qui, depuis 90, donc il est continuellement à la même, quasi presque la même le même appellatif, mais c'est le parti qui a été, de point de vue organisationnel, le plus cohérent et le plus continu comme structure, comme organisation, sans changer de nom, etc. Donc, c'est ce parti qui traditionnellement, lors des grandes échéances électorales, est capable d'engendrer un vote utile, un vote contre, un vote opposition. Mmh. Et on l'a vu le 26 mai dernier aussi, le volet national de ce vote européen était extrêmement important, anti-PSD. Donc, la capacité du PSD de coaguler l'opposition est traditionnellement importante. Est-ce que cela sera suffisant?
Ça suffira
en 2020. On verra. Je pense que ce n'est plus suffisant. Et vous parliez tout à l'heure, en début de votre émission, justement, de cette société civile roumaine qui est beaucoup plus active depuis quelques années déjà, depuis quelques bonnes années, qui a des attentes, qui a atteint cette société, qui a atteint un certain degré de maturité politique et qui peut-être cherche un vote positif aussi. Enfin, j'en suis certaine, une partie de cette société veut un vote positif, voter pour quelque chose et non plus de nouveau, comme à chaque fois, presque, contre le PSD, que dans les années 90, on appelait les néo-communistes, et maintenant, on l'appelle le parti de la corruption et corrompu.
Alors, on reviendra, Sylvia Marton, si vous le permettez, justement, sur cette société civile, voir comme elle pèse aujourd'hui, mais si on continue de faire un tout petit peu de politique, Traian Sandu, Dacian Cioloș, qui était l'ancien Premier ministre, je le disais, de novembre 2015 à janvier 2017, faisons l'hypothèse qu'il revient à la tête de l'exécutif. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la corruption? Est-ce que son éventuel retour serait une bonne nouvelle dans ce mouvement de lutte contre la corruption?
Écoutez,
à l'aune de ce qu'il a fait.
À l'aune de ce qu'il a fait. Une telle question est déjà un tout petit peu normative, puisque cela voudrait dire que c'est un homme hostile à la corruption, ce que tous les hommes politiques affirment être. Et donc, ça serait une question un peu rhétorique, d'une certaine façon. Donc, qui m'invite à vous dire que ça serait une bonne chose. Je dirais que son passé le qualifie... pour se réclamer de l'hostilité à la corruption, surtout de l'opposition au Parti social-démocrate qui est censé incarner cette corruption. Donc, dans une optique un peu fonctionnelle, on va dire que oui, ce serait une bonne chose pour la corruption telle qu'elle a été définie jusqu'à maintenant, parce qu'on peut aussi parler de la question sociale et on pourra y revenir. Les deux choses ne sont pas totalement en synergie, totalement convergentes, mais pour une affirmation d'une éthique, d'un ethos européen, d'une attitude contre la corruption, oui, ce serait sans doute une bonne chose, mais il n'y a pas, si vous voulez, que la corruption. Il faut remettre la corruption en contexte, notamment à l'égard des politiques socio-économiques, des politiques culturelles, et aussi d'une dimension qui, en ce moment, est en train de connaître une certaine décroissance, et sans doute pour le bien de la maturation politique de la Roumanie, qui est le nationalisme. Hein, c'est toujours quelque chose qui fonctionne assez bien, qui fait partie de la culture politique roumaine, et qui...
Et elle est très forte dans la rhétorique, justement, de Dacian Cioloș.
Le nationalisme est plutôt fort dans la rhétorique du Parti social-démocrate, qui faisait passer pour patriotique un certain nombre de carabistouilles et précisément, enfin, une partie de la corruption était passée aussi sous le couvert du patriotisme. Mais en face, si vous voulez, l'accusation, c'est de faire passer sous le couvert de l'anticorruption et de l'honnêteté une politique éventuellement très libérale qui a caractérisé la culture politique de Dacian Cioloș, Dacian Cioloș, si vous voulez prononcer à la roumaine, et donc ayant été commissaire. Cet homme n'est pas sorti de nulle part.
Ancien commissaire européen.
Ancien commissaire européen, donc quand même immergé dans une culture politique assez libérale, avec des attaches occidentales fortes, notamment françaises. Hein, son épouse est française. Il a fait des études en France, à Montpellier, si mes souvenirs sont bons.
Oui, le jour où j'ai regardé hier, c'était effectivement Montpellier.
C'était effectivement Montpellier, voilà, il a une spécialité d'agronome. Voilà, donc il a un profil extrêmement européen, donc ça serait une bonne chose pour l'anticorruption. Alors maintenant, la société roumaine, vous savez, est aussi une société pauvre. Il y a 25% de la population qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté, selon les calculs européens. Et donc, il y a d'autres exigences que celle de la corruption. Je sais que c'est bien celle qui nous intéresse aujourd'hui, et je vais répondre à vos questions, mais il faut à chaque fois
l'articuler
en contexte,
avec l'articuler, le contexte plus général, bien sûr. Sur la question de la corruption, Sylvia Marton, alors je ne sais pas s'il faut parler de réveil de la société civile, parce que en fait, ça fait longtemps que les Roumaines, les Roumains s'élèvent contre ce phénomène de corruption, mais pourquoi à un moment ils ont cessé au fond d'accepter cette corruption et se sont mobilisés à ce point pour y mettre un terme? Pour tenter d'y mettre à terme, Sylvia Marton. Pourquoi ce réveil ?
C'est une question tout à fait légitime et qui devrait travailler profondément tous les partis politiques. Je l'espère que c'est cette votre question. Elle est au cœur de tous les partis politiques pour les prochaines échéances électorales. Donc, mais toute blague ou ironie à part, les sociologues d'abord ont donné une première réponse. Mes collègues sociologues de l'Université de Bucarest et d'autres universités, d'autres chercheurs, ils ont un peu fait des corrélations, par exemple, en regardant que la Roumanie est devenue connu depuis les années 2000, début des années 2000, lorsqu'elle a connu une croissance économique assez importante, et même la crise économique, disons, grosso modo, de la crise économique de 2008, donc disons que grosso modo, elle a touché un peu moins la Roumanie que, par exemple, l'Allemagne ou d'autres pays. Et donc, dans cette histoire, dans cette déjà assez longue de plus d'une décennie de croissance économique, on a vu deux phénomènes apparemment, ou selon le sens commun, contradictoires. D'abord, le phénomène migratoire, donc quitter la Roumanie, ce phénomène s'est amplifié. Et deuxièmement, que la société roumaine, pendant cette même période, est devenue plus active, plus revendicative, plus encline à protester. On a vu depuis 2011-2012 déjà plusieurs vagues de protestations contre le gouvernement, contre ou pour un autre parti, lors des échéances électorales.
Pardon, faut-il y voir, Sylvia Marton, pardonnez-moi, je fais une toute petite parenthèse, faut-il y voir cette montée en puissance de la dénonciation de la corruption, un signe de, et je mets beaucoup de guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin, vous allez le comprendre, un signe de démocratisation. Est-ce que la montée en puissance de l'intolérance vis-à-vis de la corruption, elle illustre le fait que, eh bien, la Roumanie a réussi, au fond, son processus de démocratisation et aujourd'hui est une démocratie bien aboutie?
Partiellement, la réponse est positive à votre question, mais seulement partiellement. Il y a en effet une sorte de auto-saisissement. Les citoyens qui sont auto-saisis politiquement d'eux-mêmes, ils se sont rendus compte que oui, voter c'est important. On l'a vu le 26 mai dernier, le vote, à mon avis, a été vraiment le vrai. C'est-à-dire, du vrai. Cette mobilisation assez importante pour cette échéance électorale et ensuite pour le référendum était un peu inattendue. On s'attendait à des taux qui étaient traditionnellement beaucoup plus réduits. Et donc, le vote comme instrument, oui, ça peut être et ça reste un signe de montrer que voilà, la démocratie roumaine avance. Elle n'est loin d'être une démocratie solide, loin, beaucoup loin, mais qu'au moins les citoyens se sont rendus compte que le vote est un instrument important. De même que la protestation, et je fais une équation un peu similaire, le vote comme la protestation de rue, les protestations écrites sur différents réseaux sociaux, etc., je les mets un peu dans la même catégorie, donc d'avoir une voix au sens politique et au sens social, et exprimer cette voix que beaucoup de citoyens se sont rendus compte qu'elle est importante, cette expression de cette voix, quelle que soit la forme, dans la rue, par le vote, par l'écrit, par la lecture, par les réseaux sociaux. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que oui, la Roumanie est une démocratie plus solide qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 années. Que l'intégration à l'Union européenne 2007, que vous venez de mentionner en début d'émission, a pu aider à cela. La migration qui a augmenté, ça aussi, et donc il y a des allers-retours entre la Roumanie et les autres États de l'Union européenne et le monde en général. Que les voyages à l'étranger, Europe ou ailleurs, se sont multipliés. Donc, il y a un effet d'apprentissage d'une pratique démocratique qui se fait par ce type de... Là, il y a un mot que je n'aime pas, européanisation, mais bon, on peut l'utiliser.
On peut l'utiliser. Moi aussi, il y a des mots que j'aime pas, mais ils sont parfois pratiques pour faire passer des idées quand même.
Exactement. Et donc, il y a cet effet-là aussi, de cette auto-saisie, disons, les citoyens qui sortent de la passivité, et en effet, depuis une décennie, les citoyens qui protestent. Il y a un effet de génération aussi, peut-être, ce sera ma deuxième réponse, un effet de génération. Qui sont les plus actifs, à mon avis? Ce n'est pas les jeunes. Les jeunes, si les sociologues les définissent, non, les 10, 26, 27 ans, ce n'est pas les jeunes qui sont les plus actifs. À mon avis, il reste encore, à mon goût, de point de vue normatif, donc pas suffisamment impliqué. Mais la catégorie d'âge la plus active, c'est l'âge moyen, disons, les 40, fin 30, trentaine, 40, début de la cinquantaine, c'est-à-dire les catégories sociales qui sont aussi professionnellement les plus actives et qui forment la classe moyenne, enfin, de ce point de vue sociologique, professionnel, disons. Toutes ces catégories, bien sûr, sont limitatives, mais bon, elles ont une capacité heuristique, même si minimale. Et donc, également, de ce point de vue, il y a une démocratisation par la participation, par la volonté de se faire écouter sa voix, de se faire entendre sa voix.
Je voudrais peut-être faire intervenir Treyane Sandou. Vous restez avec nous, évidemment, Sylvia Marton. Treyane Sandou, sur les éléments qu'on a évoqués, c'est-à-dire d'abord cette articulation entre la dénonciation de la corruption et le processus, pardonnez-moi, je remets des guillemets, de démocratisation, mais aussi celui d'européanisation qu'évoquait Sylvia Marton, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi cette idée que, d'une certaine manière, ceux qui aujourd'hui dénoncent les faits de corruption descendent dans la rue pour la dénoncer, peut-être sont-ils davantage pro-européens que ceux qui ne descendent pas.
Oui, donc ils sont
plus visibles. Est-ce que ce clivage-là...
Cela fonctionne. Ils sont plus visibles. Ils sont aussi, bon, on le sait par l'analyse de la sociologie électorale, ils sont aussi plus visibles parce qu'ils ont des études. Hein, ce sont des jeunes urbains éduqués. Effectivement, comme le disait ma collègue de Bucarest, plutôt entre 30 et 50 ans. Donc, ils ont voyagé. En raison aussi de leur métier, mais parfois aussi parce que c'est une, ils ont participé à l'émigration de travail, ils sont revenus ayant acquis des habitudes politiques dans les pays occidentaux et ils sont venus, n'est-ce pas, faire profiter de cette nouvelle culture politique leur société quand ils sont rentrés, parce qu'ils rentrent, ils ne rentrent pas toujours. Donc il y a deux axes. Dans cette mobilisation sociale anticorruption, qui sont les axes des ONG et ceux de la diaspora. La diaspora est un élément important, est un vecteur important, un acteur important de la vie politique. Lors des votes, on voit les problèmes parfois techniques qu'il y a à faire voter la très nombreuse diaspora roumaine. Hein. Je crois avoir vu des chiffres selon lesquels la Roumanie, c'est le pays d'émigration le plus important après la Syrie en guerre. Vous voyez, donc ce n'est pas très flatteur. Et il y a des phénomènes liés à la corruption qui sont particulièrement, je dirais, significatifs de la dégradation de l'image que les Roumains ont d'eux-mêmes, qui est une vieille tradition, n'est-ce pas, de complexe, de périphérie, de manque de culture politique. Qui remontent au 19e siècle, mais qui ont été ravivés donc récemment par ces accusations, y compris institutionnelles, de corruption. Et il y a des phénomènes extrêmement préoccupants, comme par exemple l'émigration de jeunes bien intégrés dans des entreprises, dans des sociétés étrangères et qui reçoivent des bons salaires autour de 3 000, 4 000 euros et qui choisissent, en gardant le même salaire, de s'expatrier dans un pays occidental où leur niveau de vie sera bien moindre parce que les prix sont plus forts. Mais c'est significatif, si vous voulez, de la mauvaise image que les Roumains ont d'eux-mêmes. Et je dirais qu'ils ne méritent pas tant d'indignité. Vous voyez, donc cela fonctionne beaucoup ce ressenti, parce que c'est plus un ressenti de la corruption. La corruption, évidemment, elle existe. Elle a été quasiment institutionnalisée. Hein, cette lutte du ministre de la Justice pour faire échapper, c'est le chef de son parti, Monsieur Dragnea, à la peine de prison est significative, hein, n'est-ce pas, de ces tentatives de corruption. Mais je dirais qu'il y a dans d'autres pays à la fois un ressenti et une réalité de la corruption qui sont beaucoup moins valorisées. En Roumanie, il y a un ressenti qui est très fort et qui a un impact sur l'attitude sociale des personnes, comme je vous l'ai dit, qui sont prêtes à quitter le pays alors qu'ils perdront du pouvoir d'achat. Cette question de l'image est très importante, alors que la Roumanie, bien évidemment, a un niveau de corruption élevé, mais comme on lui met un tout petit peu le doigt sur là où ça fait mal, la société réagit et réagit de façon parfois assez épidermique.
Sylvia Marton, essayons de poursuivre un petit peu pour comprendre ce qu'il y a derrière ce mouvement citoyen qui vise à dénoncer la corruption. Alors il y a évidemment la première partie, la basique, c'est-à-dire le rejet de la corruption elle-même. Il y a aussi cette peut-être tendance à aller dans le sens de l'Europe, c'est-à-dire que effectivement ceux qui dénoncent la corruption sont plutôt peu ou prou plutôt pro-européen. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas encore évoqué, sur lequel je voudrais vous entendre, Sylvia Marton, c'est que ce qu'on a aussi derrière la critique de la corruption, et ça, peut-être que c'est à partager avec d'autres États, d'autres anciens pays communistes, c'est un rejet plus global d'une certaine élite économique, politique, qui est parvenue à préserver ses prébendes malgré la chute de l'URSS. Derrière le rejet de la corruption, c'est aussi ce ras-le-bol à l'égard de cette élite politique, économique, qui a gardé le pouvoir malgré la fin de l'ère soviétique. Sylvia Marton.
Tout à fait, il y a une grande part de réalité dans votre question. Donc au-delà de cette, on peut dire, oui, souligner autant qu'on veut que la croissance économique La théorie politique, la science politique n'arrête pas de le souligner, qu'il y a une corrélation entre la croissance économique que la Roumanie en a connue depuis le début des années 2000 et le fait que les citoyens deviennent plus exigeants. On devient plus exigeant par rapport à sa société, à sa sphère politique. Ou bien on s'installe, on en a parlé dans la migration, on quitte. Ou bien si on reste sur place, on exige plus de la part des services publics, de la part de la classe politique, des élites, des institutions, etc. Donc il y a cette corrélation, oui, elle est une parmi tant d'autres. Ensuite, vous l'avez également évoqué dans votre question, plus on dénonce la corruption, plus on voit la corruption. Il y a cet effet-là sur la société roumaine aussi. Plus on dénonce, et ça vaut pour toutes les sociétés, je pense, plus on dénonce la corruption, et on est un peu à l'échelle globale, on est dans cet esprit-là, dénoncer la corruption, la recherche de la probité politique, de la probité et même de la moralité. Il y a eu le débat en France aussi sur la moralisation, soi-disant moralisation de la vie publique. Donc, plus on en parle, qu'il y a des défaillances à la probité, plus on les voit. Donc, mais au-delà de ces deux éléments, il y a dans votre question aussi, vous soulignez cette rupture qui est très réelle à mon avis, et c'est celle-là qui est la plus problématique, y compris pour les échéances électorales bien prochaines, 2019-2020, et en général pour la démocratie roumaine. Et c'est de ce point de vue qu'on voit que la démocratie roumaine reste fragile. Au-delà de cette autosaisie et de cette autosaisine citoyenne qui est réelle, mais qui ne donne pas en fait la mesure du processus de démocratisation. Et cette rupture, c'est la rupture entre la classe politique, les élites politiques, enfin, la classe politique et les institutions de l'État et les citoyens.
Et en particulier la classe politique de gauche. Sylvia Marton, qui finalement a gardé très longtemps le pouvoir.
Donc le Parti social-démocrate, en effet, il est au pouvoir depuis 2012, en fait, en coalition avec le Parti national-libéral, qui maintenant est en opposition, et puis dans 2012 et 2014, et puis le Parti libéral est entré dans l'opposition. Donc ce Parti social-démocrate, oui, pour des raisons tout à fait légitimes, il est identifié depuis déjà, ça fait presque une décennie, donc à la détention du pouvoir et à cet assaut contre les lois de la justice, et donc est devenu le parti décorrompu, est associé avec toute cette lutte pour l'assouplissement de la corruption.
Ce qui ne veut pas dire que la droite n'est pas aussi touchée par le phénomène de corruption.
Bien sûr, les partis aussi. Donc, encore une fois, le Parti libéral a fait une alliance avec le Parti social-démocrate. Et donc, lorsque je dis classe politique, oui, je ne fais pas un plaidoyer pour ce discours de le tous pourri. Le tous pourri, parce que si on met tout le monde dans la même catégorie, le tous pourri, il n'y a rien à faire, ni de point de vue normatif, ni de point de vue de la revendication. Donc, moi, je ne suis pas personnellement pour ce tous pourri. Il y a une perception de cela, en effet, du point de vue des citoyens. Et à mon sens, c'est cela qu'il faudrait déconstruire, et que les partis de l'opposition en ce moment ont vraiment cette opportunité politique de rompre ce cercle du tous pourri. Les citoyens qui sont en rupture totale avec la classe politique et les institutions, les grandes institutions politiques de l'État, local ou national, et de dire que voilà, on peut être pour quelque chose, on peut lancer des réformes, que la question de la corruption n'est pas le seul sujet. Même s'il monopolise le débat politique, il est loin d'être le seul sujet. Il y a énormément d'autres sujets qui touchent la société roumaine et les citoyens. Oui, il y a un phénomène de corruption important, mais il n'est pas partout. Il y a beaucoup manque d'efficacité, incapacité institutionnelle, manque d'organisation qui ne sont pas liés forcément à la corruption. Donc il n'y a rien de déterministe de ce point de vue. Et donc cette rupture-là, c'est là, entre élite et citoyen, entre la classe politique, là, ça donne, on le sait de point de vue historique aussi, ça ouvre le chemin à différents discours illibéraux, voire autoritaires, antidémocratiques. Encore une fois, historiquement, on a plein d'exemples.
Attendez, je vais faire réagir Traian Sandou pour essayer d'avoir un temps de parole un peu équilibré. Traian Sandou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Roumanie est à un moment de son histoire où précisément elle peut échapper à ce discours du tous pourri? Je le disais tout à l'heure, il y a désormais dans le paysage politique un nouveau parti qui a émergé, et qui a émergé précisément sur ces mouvements citoyens de lutte contre la corruption, qui est l'Union Sauver la Roumanie. Aujourd'hui, elle a fait, là, je crois, au scrutin européen, quelque chose comme 25%, quelque chose comme ça, 22-23%. Est-ce que ce parti-là est aujourd'hui en capacité, justement, de bouleverser ce paysage politique roumain qu'on a connu jusque-là, et donc à apporter, d'une certaine manière, à la fois cette lutte contre la corruption, mais un projet politique plus général, parce que effectivement, il y a bien d'autres sujets que celui de la corruption. Est-ce que ça suffira de porter la lutte contre la corruption pour sortir justement le pays de ce clivage entre la gauche et la droite roumaine?
Voilà. Alors je voudrais aller dans le sens de ma collègue, hein, pour dire ce qu'elle a dit, ce que j'ai dit aussi avant, que la lutte contre la corruption n'est pas la seule question, mais c'est la question qui nous mobilise aujourd'hui. Cette apparition d'un mouvement politique qui est issu en partie de la société civile, c'est le segment USR, Union Sauvée la Roumanie, qui est issu de l'Union Sauvée Bucarest, en fait, qui est issu pratiquement de l'autre axe de la mobilisation anticorruption aux côtés de la diaspora, qui est que sont les ONG. Les ONG, la société civile, structurée sous forme d'ONG, qui reçoivent aussi des financements, bien évidemment, mais on peut dire qu'elles représentent une partie de l'opinion publique, de la société civile, si l'on veut. Bon, donc, cet axe Union Sauver la Roumanie, qui est représenté maintenant politiquement, qui a déjà fait, en 2016, si mes souvenirs sont bons, 8% aux législatives, hein, donc qui a déjà une légitimité politique, eh bien, c'est allié au parti plus de M. Dacian Cioloș, qui n'est pas un inconnu, qui a eu un profil aussi anticorruption, mais on peut dire aussi qu'il a un passé politique derrière lui, et il peut représenter cet axe anticorruption, mais aussi peut-être une politique assez libérale, à laquelle les Roumains sont assez sensibles, parce que la volonté justement anticorruption fait pencher du côté de la méritocratie, et la diaspora, donc les bases sociales de ce parti, qui sont en partie diasporiques, sont favorables aussi au discours de la méritocratie, du libéralisme et de l'anticorruption. Donc il y a, si vous voulez, derrière ce langage, ce discours de l'anticorruption, il peut y avoir une idéologie libérale assez congruente avec celle de l'Europe, hein, donc ça peut être tout à fait en accord avec le dynamisme pro-européen des Roumains, mais il faut savoir, et là il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, que les bases sociales du Parti social-démocrate, qui vient quand même de perdre les élections et qui a connu un recul électoral important, ces bases sociales, comme je l'ai dit, ne sont pas totalement effacées. D'une part, ma collègue l'a très bien rappelé, c'est le parti, on va dire, post-communiste, un parti social-démocrate, très bien structuré, très discipliné, certes autour de barons corrompus locaux, mais on peut les appeler ainsi, mais malgré tout, cela représente quelque chose. Et il y a une deuxième dimension qui n'est pas simplement conjoncturelle, c'est que ce parti, dernièrement, a beaucoup augmenté les salaires des fonctionnaires, des professeurs, hein, les enseignants, des médecins, qui en ont bien besoin, et qui essaient d'améliorer ainsi un peu les structures du service public roumain. Donc, si vous voulez, ce n'est pas simplement le parti de la corruption, c'est le parti des petites gens de Moldavie notamment, mais aussi de Valachie, des milieux ruraux, des fonctionnaires qui ont bien besoin qu'on augmente leur salaire pour retrouver du pouvoir d'achat, et aussi pour retrouver une certaine indépendance, précisément anticorruption. Donc il y a quelque chose d'un tout petit peu paradoxal, si vous voulez, le fait d'augmenter les salaires des médecins, mais aussi des enseignants, que l'on payait, que l'on rémunérait d'habitude avec de la petite corruption, où vous les payiez en fait en nature. Hein. Il fallait leur venir avec des produits alimentaires ou une bouteille ou quelque chose pour compléter le salaire d'un service médical ou d'enseignement. Et donc le fait d'avoir augmenté leur salaire est aussi, de façon un peu moins dite, un peu moins évidente, un travail anticorruption de fond mené précisément par le Parti social-démocrate. Donc on est un petit peu à l'envers, si vous voulez, de l'image de parti corrompu. Alors c'est vrai qu'il l'a fait pour des raisons tout à fait électoralistes. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires pour des raisons électoralistes, mais cela va aussi dans le sens d'une lutte anticorruption, alors que c'est censé être le parti de la corruption.
Allez, encore un mot peut-être, Sylvia Marton, autour de la grande figure figure de la lutte anticorruption, qui est Laura Kadrouto-Kovesi, qui est une juriste, qui a été procureure en chef de la Direction nationale anticorruption de 2013 à 2018. Elle ne l'est plus. Il se trouve qu'elle a été inculpée en mars dernier pour des faits de corruption. Depuis, elle a été blanchie. C'était en fait une campagne d'intimidation. Mais il se trouve qu'elle pourrait être nommée à la tête du futur parquet européen et donc revenir dans ce combat pour la lutte contre la corruption en Roumanie. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, pour la corruption, pour la lutte contre la corruption, sûrement. Mais il y a aussi en Roumanie, comme dans beaucoup de pays d'Europe, une certaine défiance à l'égard de l'Union européenne. Est-ce que ce combat mené par les institutions européennes, et notamment par ce futur parquet européen qui pourrait être présidé, dirigé par Laura Kovesi, est-ce que ce combat-là mené par les institutions européennes ne risque pas d'accroître le ressentiment des Roumains, en tout cas d'une partie d'entre eux, vis-à-vis de l'Europe?
Il y a ce risque, tout à fait, et ce risque déjà a été, ce risque s'est vu parce que ce type de discours a été utilisé par le Parti social-démocrate pendant la campagne électorale récente pour les élections européennes. Et depuis quelques bons mois déjà, ce parti avait ce type de discours. La Roumanie, elle est membre de l'Union européenne, mais elle est traitée comme un partenaire secondaire de la périphérie marginale, etc. Et cela a touché un peu tous les réflexes souverainistes de la Roumanie et le leader du parti, Liviu Dragnea, a parlé justement de cette humiliation de la Roumanie. La première ministre aussi a utilisé ce type d'éléments. Donc, et on a accusé que les institutions européennes sont trop intrusives, que les institutions européennes ne connaissent pas la réalité sur place et que l'état de droit en fait fonctionne en Roumanie, mais que les institutions européennes, donc, en étant trop intrusive, traite la Roumanie et ses citoyens comme des partenaires et des citoyens de second rang. Il y a ce risque, mais en mon avis, au-delà de ce risque, il y a en fait une grande majorité de l'opinion publique roumaine qui reste quand même très pro-européenne. Ça s'explique pour des raisons historiques aussi. C'est un peu comme si on parlait de cette rupture entre élite et citoyens. C'est comme si les citoyens attendaient que l'Union, les institutions européennes sauvent la Roumanie d'elle-même, que les institutions européennes sauvent la Roumanie de cette classe politique pourrie qui a saisi les institutions de l'État à son propre bénéfice. Et donc, cette instance, on voit encore les institutions européennes comme une instance de sauvegarde, comme une sorte de bâton, si vous voulez, qui est là, comme un œil patronal, une sorte de patron qui... mais dont l'intervention est attendue par une majorité de l'opinion publique. Et cette opinion publique qui sort dans la rue, elle est majoritaire ou pas, on le verra pour les échéances électorales prochaines, on l'espère, de mon point de vue, cette opinion attend. Donc, ce type d'opinion publique attend le regard et l'intervention européenne, les ambassadeurs,
elle soutient d'une certaine manière cette ambition de l'Europe d'aider la Roumanie à lutter contre la corruption. On est dans cette semaine consacrée à la corruption, de la rue aux urnes, quand la société dit stop. Sylvia Marton est en duplex avec nous depuis Bucarest. Ryan Sandu est avec nous. On va quitter l'Europe, prendre la direction d'un autre continent, à savoir l'Asie et en particulier l'Inde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ces gens, les politiciens, les bureaucrates, ils sont en train de dilapider des millions et des milliards. Ils remplissent leurs coffres, je ne veux pas de ça.
Mon combat pour le changement continuera jusqu'à ce que le gouvernement agisse. C'est seulement à partir de là que mon mouvement s'arrêtera.
Je suis ici surtout pour mon fils. Nous avons vécu la moitié de nos vies, mais la génération de mon fils doit avancer. Donc nous sommes ici pour les générations futures de l'Inde.
Ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Cette flamme doit continuer à brûler jusqu'au changement complet du système. Je vous le dis, la lutte ne fait que commencer.
Voilà, on est au début des années 2000, un grand mouvement citoyen anticorruption émerge en Inde avec à sa tête Anna Hazare. Ce mouvement fait même son apparition sur la scène politique avec la création d'un parti, le Parti de l'Homme Ordinaire, un peu comme en Roumanie justement, c'est pas tout à fait un hasard si on l'a choisi, dont le symbole était un balai de ce parti, hein. Voilà, on n'invente rien. Il parvient à prendre presque tous les sièges de l'Assemblée législative de Delhi aux élections de 2013, une victoire inédite dans l'histoire de la capitale, et il parvient même à envoyer quelques élus, 4, à la Chambre basse lors de l'élection de 2015. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, justement? Voyons comment, quand les mouvements citoyens se transforment en partis, comment ça se passe dans le temps. Bonjour Stéphanie Tawala-Marewal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargée de recherche en sciences politiques au CNRS. Pour voir un peu le destin de ce grand mouvement citoyen qui s'était transformé en parti, regardons les dernières élections générales en Inde. On le sait, qui ont vu la victoire du BJP, qui a obtenu 45% des suffrages. La liste d'opposition... a fait 27% des suffrages. C'est une opposition qui est structurée autour du parti du Congrès mené par Rahul Gandhi. Et alors, qu'est-ce qu'il en est du parti de l'homme ordinaire qui était parvenu quand même à faire une percée historique inédite au milieu des années 2010? Est-ce qu'il est parvenu à maintenir un peu ses positions ou est-ce qu'il s'effondre?
Alors, c'est un peu trop tôt pour dire qu'il s'effondre quand même, mais il subit un revers très très fort dans la mesure où, effectivement, il n'a pu envoyer cette fois-ci qu'un seul élu au Parlement, enfin à la Chambre basse du Parlement. Cet élu est au Punjab et non à Delhi, la ville-état de Delhi étant quand même le bastion historique de ce parti de l'homme ordinaire. Et certainement, en termes de pourcentage des voix obtenues, on constate une très forte dégringolade puisque... lors des élections législatives à l'Assemblée de Delhi en 2015, le parti avait obtenu 54% des suffrages et que là, récemment, donc en avril-mai, il a obtenu 18%. Revenons ainsi pour la première fois donc dans ce bastion de Delhi à la troisième place derrière le PJP, mais aussi derrière le Congrès.
Et alors si on regarde le bilan justement du côté de Delhi, parce que effectivement ce mouvement anticorruption, mouvement citoyen, il s'est transformé en parti, il y a eu d'abord évidemment des divergences entre le leader charismatique Anna Hazare que j'évoquais tout à l'heure et un autre militant qui va devenir le chef du futur parti qui est Arvind Kejriwal, et ce Arvind Kejriwal il a été le ministre en chef de Delhi depuis février 2015. Quel bilan est-ce qu'on peut dresser de son action et en particulier en matière de lutte contre la corruption qui nous intéresse ce matin?
Alors, ce qui est important de comprendre quand on parle de l'Ambani Party, c'est que dans le discours puis dans la pratique du parti, la corruption était très étroitement liée à un autre thème qui était la participation des citoyens, qui est un thème très original en Inde, qui a été très peu porté par les partis politiques et qui était présenté par le mouvement puis par le parti qui en est né comme un moyen majeur de lutter contre la corruption, mais au-delà comme un moyen de vraiment régénérer la démocratie indienne. Alors la pratique du pouvoir de la Manu Party...
c'est un échec. Hein.
C'était un échec en grande partie en ce qui concerne la lutte contre la corruption, mais il faut dire quand même que...
Sur la régénération de la démocratie, quand on voit qu'ils n'ont envoyé qu'un seul candidat à la Chambre basse, et que c'est un recul par rapport à la fois dernière où il y en avait eu quatre, c'est un recul, cette régénération. Mais sur le volet justement de la corruption, à Delhi, qu'est-ce qui a été fait? Quel bilan on peut faire de l'action de l'équipe d'Arvind Kejriwal?
Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir leur pratique du pouvoir. Oui. Alors, ils ont d'abord essayé de mettre en place des pratiques de lutte contre la corruption. Ils ont invité, par exemple, les citoyens à, quand ils sont en face d'une demande de corruption quotidienne, par exemple, quand on leur demande de payer un bakshish pour installer une ligne d'électricité chez eux, eh bien, le parti a invité les citoyens à accepter de payer le bakshish tout en faisant une vidéo avec leur téléphone portable de la chose pour ensuite communiquer la chose à un bureau anticorruption qui a été mis en place. Mais ceci s'est arrêté très rapidement puisque la ville-état de Delhi est en fait... sur le plan constitutionnel, a un statut très particulier. Et donc, le gouvernement central, dominé par le PJP dès 2014, s'est très vite, efforcé d'empêcher le gouvernement de Delhi de poursuivre dans cette voie. Alors, le parti s'est replié sur d'autres formes vraiment très citoyennes de lutte contre la corruption et, encore une fois, contre la corruption quotidienne, en organisant notamment des assemblées de quartier où les élus locaux et des bureaucrates en charge des services de base urbains étaient censés venir rendre des comptes. Ça s'est très vite arrêté encore une fois dû à l'obstruction en quelque sorte du lieutenant-gouverneur qui représente le gouvernement central dans la ville-état de Delhi. Et le parti s'est déporté son action sur les écoles publiques avec cette même procédure qui consiste à organiser une confrontation entre les citoyens et les autorités. Et là, il a obtenu quelques résultats. Mais enfin, on voit bien que le champ d'action s'est vraiment beaucoup rétréci.
Quelques résultats, ça veut dire qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus obligés de payer des bakshish pour inscrire leurs enfants à l'école.
C'est ça. Seulement ça, mais de façon plus générale, les comités de gestion des écoles qui ont été mis en place par le gouvernement du Parti de l'Homme Ordinaire ont réussi à vraiment instaurer une relation nouvelle en fait entre les parents des élèves de ces écoles, qui sont en général des parents qui appartiennent aux sections les plus défavorisées de la population de Delhi, et les divers départements de l'État de Delhi et de la municipalité de Delhi en charge des services. Et ça, je crois que c'est quelque chose de significatif, même si ça peut paraître assez mineur, parce que ces gens-là, qui étaient vraiment dans une relation de dépendance complète vis-à-vis du bon vouloir de la bureaucratie, se rendent compte qu'ils ont des droits vis-à-vis de l'État et donc se développe un véritable sentiment de citoyenneté. Mais quant à la lutte contre la corruption, les résultats sont très très faibles.
Oui. Stéphanie Tawala-Lamarewal, est-ce que il n'y a pas eu aussi un autre phénomène qui serait, je vous pose la question, qui serait que d'une certaine manière ce thème-là a aussi été réinvesti considérablement par Narendra Modi lui-même. On se souvient qu'en 2014, quand Modi fait campagne, alors il y a évidemment toute cette rhétorique nationaliste prônant la préférence hindouiste, n'hésitant pas à agiter le sentiment anti-musulman, mais il y a aussi tout ce discours de dénonciation des élites et de la corruption. Est-ce que d'une certaine manière Modi n'a pas siphonné ce thème-là au parti de l'homme ordinaire ?
Si, bien sûr, et quelque part on peut aussi considérer que le parti, enfin le mouvement anti-corruption puis le parti de l'homme ordinaire ont réussi à avoir un véritable impact sur la scène politique indienne dans la mesure où les plus grands partis, d'abord bien sûr le BJP, se sont emparés de ce thème de la lutte contre la corruption. Et c'est vrai que Modi avait fait une large place à ce thème dans son discours de campagne en 2014. Mais ça a peu duré en fait. Une fois arrivé au pouvoir, ce thème est resté vraiment en retrait. Et par exemple, la nouvelle institution qui était demandée par le mouvement anti-corruption et qui serait en fait chargée de superviser des enquêtes sur les hommes politiques soupçonnés d'actes de corruption, eh bien cette nouvelle institution, Modi s'était engagé pendant sa campagne en 2014 à la faire fonctionner au niveau du centre, du gouvernement central. Et en fait, l'ombudsman en question, donc qui supervise cette institution, n'a été nommé qu'en mars 2019, donc juste avant les élections. Donc on voit bien quand même un décalage entre, là aussi, les discours et les actes.
Peut-être une dernière question, Stéphanie Tawala-Marewal. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la mobilisation citoyenne ? Parce que c'était quand même un mouvement colossal qu'on a eu au début des années 2010. Il en reste quoi aujourd'hui ?
Alors c'est difficile à dire. D'après les résultats, les premières analyses de la distribution du vote lors de ces dernières élections, on peut penser qu'une bonne partie des gens qui étaient dans la rue pour soutenir Anna Hazare quand il a lancé son mouvement anticorruption à Delhi, et qui étaient vraiment des gens des classes moyennes urbaines, voire des classes moyennes supérieures, des gens qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir dans la rue, eh bien que ces gens-là ont voté pour le BJP. C'est à peu près ce qu'on peut dire maintenant. Quand la mobilisation de la Manu Party, elle est clairement, la capacité de mobilisation de la Manu Party est clairement très très en baisse. Et personne ne voit aujourd'hui un mouvement de rue contre la corruption susceptible d'émerger actuellement. Vraiment, c'est l'humeur en ce moment en Inde est à la célébration de la victoire de Modi. Is coming around every day. Regarde, 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 tu poses tes pieds, tu mets tes mains sur des tables étranges. Tu signes des chèques, des papiers, des cartes, des rôles, et tu te retrouves par terre. Corruption is coming around every day.
Merci beaucoup Stéphanie Tawala-Marewal d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes auteur de cet ouvrage, Les avatars de la participation en Inde, forme et ambiguïté de la démocratie participative, qui était paru aux éditions du Croquant. Un grand merci Trayan Sandhu d'avoir été avec nous également. Je rappellerai vous concernant Une histoire de la Roumanie, qui était paru chez Perrin, et vous préparez là en ce moment une biographie sur Ceausescu. Et je remercie également Sylvia Marton qui a été avec nous en duplex de Bucarest. Je remercie d'ailleurs les techniciens roumains qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous, et je rappelle que vous avez co-dirigé Sylvia Marton, Corruption et politique en Europe, chez L'Harmattan. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et l'Europe et l'Amérique du Nord se considéraient hier encore comme l'avant-garde de l'humanité en marche vers le progrès, paraissent aujourd'hui en pleine déprime, c'est exagéré.
L'Occident, connu dans l'histoire mondiale pour souffrir de troubles bipolaires, traverse en ce moment une phase dépressive. Ce n'est pas seulement que la richesse et la puissance qui l'accompagnent généralement sont en train de basculer vers l'Asie, mais aussi que son régime politique, hier encore célébré comme le destin commun de l'humanité tout entière, est contesté. Notre modèle, la démocratie libérale, est en effet défié de l'intérieur comme de l'extérieur. Il est menacé de subversion par un mécontentement populaire qui se traduit électoralement par la montée de leaders populistes, mais il est menacé aussi de l'extérieur par des régimes autoritaires comme ceux de Poutine ou de Xi Jinping qui savent exploiter ces frustrations à leur profit. C'est bien pourquoi ils les attisent. Plus préoccupant encore, on a vu ces dernières années des nations s'avancer sur le chemin de la démocratie, puis y renoncer. Le cas le plus emblématique étant sans doute celui de l'Égypte. Mais si nous prenions conscience des vicissitudes de notre propre histoire, nous serions sans doute plus patients et moins inquiets. C'est en tout cas la thèse que défend Sherry Berman, une historienne américaine spécialiste de notre vieille Europe. Elle vient de publier un livre intitulé « Democracy and Dictatorship in Europe, from the Ancien Régime to the Present Day », qui montre que la construction des institutions démocratiques et la stabilisation de ce type de régime a pris non pas des décennies mais des siècles. C'est pourquoi il ne faut pas garder les yeux fixés sur une actualité sans doute décevante, mais qui risque de nous masquer les mouvements de fond à l'œuvre dans l'histoire. Berman entame son histoire de l'Europe au XVIIe siècle. Son étude porte principalement sur les grands pays d'Europe de l'Ouest, mais elle s'intéresse aussi à l'Europe de l'Est. Et l'idée générale de son travail, c'est que la démocratie libérale ne s'est nulle part installée du jour au lendemain. Il y a eu des rechutes autoritaires, des dévoiements, des crises gravissimes. Les structures sociales de l'Ancien Régime ne sont jamais totalement liquidées. Prenez le cas de la France, modèle et grand ancêtre de tous ces régimes. Le régime institué par l'Assemblée nationale constituante, une monarchie constitutionnelle, est libéral. Mais l'Assemblée législative et plus encore la Convention s'avèrent des régimes révolutionnaires, donc des régimes d'exception. Et la France ne renouera ensuite que très brièvement avec la démocratie en 1848 pour retomber, on le sait, dans l'autoritarisme par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. À la limite, si l'on suit Sherry Berman, il faudrait considérer que la démocratie n'a été consolidée et stabilisée que sous notre actuelle 5e République.
Brice. L'installation de ce type de régime a toujours été chaotique, mais quelles sont, en tout cas selon cet auteur, les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier justement, Brice?
D'abord, une illusion à dissiper. La démocratie n'est pas, comme elle a pu l'être dans l'Antiquité, l'œuvre magistrale d'un grand homme, d'un législateur qui donnerait de bonnes institutions à son peuple. La démocratie, elle est le fruit d'un processus long et complexe qui suppose effectuer préalablement un certain nombre de transformations économiques et sociales profondes. Et en particulier, le processus d'unification nationale qui fait que les habitants se sentent citoyens d'un même corps politique et qu'ils se reconnaissent comme unis et égaux. Ensuite, il faut que la société soit parvenue à briser les concentrations du pouvoir économique entre les mains de quelques oligarchies qui sont spontanément hostiles à l'extension de la démocratie dans la mesure où elles menacent leurs intérêts. Et c'est pourquoi, paradoxalement, toujours selon Sherry Berman, les guerres sont souvent le creuset des démocraties parce qu'elles unifient les nations et elles sont souvent l'occasion d'un processus d'inclusion sociale qui se traduit par une extension des droits sociaux. Enfin, et c'est encore plus contre-intuitif, Berman estime que la démocratie a de meilleures chances de réussir lorsqu'elle hérite d'un État puissant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Italie, par exemple, a eu tant de mal à devenir une démocratie. Mais le cas qui intéresse le plus Berman, c'est celui de l'Allemagne. Voilà une nation qui, au vu de toute l'histoire moderne, on a longtemps jugé rigoureusement inapte à la démocratie. Immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, rappelle-t-elle dans son livre, beaucoup de dirigeants américains jugeaient ce pays tellement gangréné par l'autoritarisme qu'ils préconisaient de lui refuser à l'avenir l'accession à la souveraineté nationale. Mais rapidement, l'idée de reconstruire une Allemagne fédérale l'emporta. Et l'Allemagne est devenue, de nos jours, un modèle d'État démocratique avec des institutions équilibrées et un fonctionnement très satisfaisant. On a tort, estime-t-elle, d'attribuer les échecs de la démocratie à la nature des sociétés, à des atavismes culturels ou à l'immaturité des populations. Certes, aucun pays ne peut se vanter d'être passé de manière sereine et paisible de l'aristocratie à la démocratie, comme l'a expérimenté l'Angleterre, qui demeure à ce titre un modèle, mais ce n'est pas une raison pour exclure de nouvelles transitions démocratiques dans l'avenir, car ce régime demeure désirable.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique, Chéri Berman, évidemment toujours pas traduit en français.
Non,
il va falloir attendre, c'est comme David Goulart, c'est toujours le même problème. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver pour l'instant sur le site de France Culture en tout cas. Voilà.